Europe 1. Ondelat raconte. Christophe Ondelat.
Voici l'histoire bouleversante d'une femme qui s'appelle Yvonne Salamon et qui est née dans le camp de concentration de Bergen-Belsen. Cette histoire, je la tire de son livre « Je suis né à Bergen-Belsen » qui paraît chez Plon. Elle sera là tout à l'heure. Et ce qui est stupéfiant dans cette histoire, c'est que pendant 6 mois, les 6 mois qu'elle a passé dans ce camp, la petite Yvonne n'a jamais pleuré. Elle est restée cachée, en silence, contre le sein de sa mère. Les SS n'ont jamais su qu'elle était née. Tugdual de Dieuleveu m'a aidé à écrire ce récit. La réalisation est de Céline Lebras.
Europe 1, Christophe Ondelat.
Mon histoire commence évidemment par l'histoire de ma mère, Hélène. Ma mère naît en Pologne en 1905. Et à 16 ans, à Varsovie, elle rencontre mon père, Nathan. Mon père, enfin. Oui, mon père. Vous comprendrez plus tard. Jeune, mes parents sont anarchistes et finalement pas très loin des communistes. Et dans la Pologne antisoviétique et très catholique de ces années-là, des juifs en plus, on les expédie en prison. On va les condamner. Et d'après leur avocat, ils risquent entre 5 et 6 ans de prison. Alors ils s'enfuient. Et un matin de 1924, ils arrivent à Paris. Et ensuite, ils s'installent à Montpellier. Ce sont des années heureuses. En 1931, naît mon frère aîné, Georges. Ensuite, déménagement à Marseille. Et en 1937, arrivée de ma grande sœur, Maggie. Entre-temps, mon père est devenu médecin et ma mère sage-femme. Et puis, la guerre arrive. Mon père est mobilisé et très vite il est fait prisonnier et envoyé en Allemagne. Trois ans plus tard, en octobre 1942, la rumeur enfle. Les Allemands arrivent, ils vont occuper Marseille, c'est certain. Ma mère décide de confier mon grand frère Georges à un curé dans les Basses-Alpes, il va lui faire servir la messe, c'est cocasse. Et ma grande sœur Maggie, qui n'a que 5 ans, elle la place chez une veuve sans enfant, Madame Breuil. Ma petite chérie, ma petite Kiki, Madame Breuil va bien s'occuper de toi. Je reviendrai bientôt. En novembre, les Allemands finissent par prendre Marseille. Et un mois plus tard, le tampon juif est apposé sur ses papiers. Maman n'a plus le droit d'être sage-femme. Elle décide de rejoindre la résistance, de rejoindre Louis, qui a fait ses études de médecine avec papa et qui est entré en clandestinité. Maman devient agent de liaison. Elle porte des lettres. Elle ne les ouvre pas, elle ne les lit pas. Elle les remet en main propre ou elle les dépose dans des boîtes aux lettres qu'on lui a indiquées. Et puis un jour, en février 1944, elle est à Nîmes, elle est venue livrer une grande enveloppe. Elle s'apprête à rentrer chez elle, à remonter dans le train. Elle est arrêtée par deux hommes qui la font monter dans une voiture. La milice, les supplétifs français de la Gestapo. Nous avons lu les papiers dans votre sacoche, madame. C'est absolument passionnant. C'est un trésor pour qui traque les résistants. Alors, il se trouve que nous connaissons certaines personnes dont le nom apparaît. Un certain Louis, par exemple. Dites-nous quel est son rôle, madame.
C'est un ami de longue date. Il est médecin. Il m'a dit de porter les lettres et moi, je ne sais pas ce qu'elles contiennent. Je vous l'assure.
On
On m'enferme dans une cave humide et obscure. Je dors par terre tout habillé, grelotté de froid, sans rien manger, sans rien boire. Ma bouche est en feu, mes lèvres crevassées. Il m'interroge sans cesse et je résiste. Mes règles sont en retard. Je suis enceinte. Un mois de grossesse. Alors je voudrais en finir, mais mon bébé m'en empêche. Et ce bébé, Yvonne, c'est toi. C'est déjà toi. Et ensuite, la milice livre Hélène, ma mère, à la Gestapo. Il paraît que vous ne voulez pas parler. Ça tombe bien, nous n'avons pas envie de vous écouter. Et là, ils la battent, ma mère, avec une brutalité inouïe. Et ensuite, ils la traînent au sous-sol. Hélène, tout à l'heure, on va vous sortir pour aller au lavabo. Derrière la cuvette des toilettes, vous trouverez un morceau de sucre. Maman m'a dit que jamais un sucre n'avait eu meilleur goût. Deux mois plus tard, en avril 44, Hélène échoue au camp de Drancy. Trois longues barres d'immeubles entourées de barbelés. Et dans la cour, des milliers d'hommes, de femmes, d'enfants, de vieillards, d'invalides. Il en arrive tous les jours. Et il en part tous les jours. Des bus pleins à craquer qui quittent le camp. Il paraît qu'il les amène travailler. À l'Est, je crois. En yiddish, ils disent qu'ils partent à Pitchipoy, autrement dit à Pétaouchnok. Et Pitchipoy, c'est un lieu inconnu, mystérieux, inquiétant. Très inquiétant. Hélène, ma mère, quitte Drancy en mai 1944. Elle grimpe dans un camion bâché et ce qui reste chante. Maman m'a raconté toute l'angoisse qu'elle a ressentie à ce moment-là. À la gare de l'Est, on les fait monter dans un train. Le convoi passe par la Belgique, il pénètre en Allemagne et il s'arrête à Bergen-Belsen, dans le nord du pays. Un camp cerclé de barbelés et planté de miradors. Et elle les voit. De l'autre côté des barbelés, elle les voit en tenue rayée, le regard vide ou avide. Et elle sent cette odeur. Elle ne comprendra que plus tard. C'est l'odeur des corps qu'on brûle dans le crématoire. La baraque de maman est identique aux autres. Il n'y a pas de chauffage, des lits superposés à trois étages, deux par paillasse. Une maigre couverture et la douche collective. Et maman qui est enceinte de 4 mois maintenant, c'est ici qu'elle va devoir me couver. Le plus terrible, maman dit que c'était la fin. Une soupe à midi, une autre le soir, une demi-louche de liquide tiède dans lequel nagent des fragments de légumes. Et une fois par semaine, un pain noir et sec. C'est un aliment très précieux dans le camp, mais pour maman, ça n'est qu'une monnaie d'échange. Je te donne le pain contre du tissu. J'ai besoin de tissu, c'est pour faire des langes pour mon bébé. Et il me faut aussi du lait en poudre, hein? Du lait en poudre.
Hélène, maman, ne pèse plus que 30 kilos. Et elle a le ventre gonflé, forcément. Mais elles ont toutes le ventre gonflé à cause de la famine. Et du coup, les SS ne soupçonnent pas qu'elle est enceinte.
J'ai peur d'être découverte, ma fille. J'ai peur de te perdre. Et je repasse dans ma tête les cours que j'ai suivis pour devenir sage-femme. Les cours sur la diététique des futures mères, sur les besoins du fœtus pendant la croissance. Et ni moi, ni toi, mon bébé, n'avons ce qu'il nous faut. Et pourtant, je te sens bouger. Faiblement, mais ça me soulage tellement. Mon bébé, tu vis, tu te développes. Et ça me donne une force incroyable, et beaucoup d'espoir. Car j'ai la volonté farouche de te mettre au monde. C'est mon obsession. Et c'est ma planche de salut. C'est cet espoir fou qui m'aide à tenir. Grâce à toi, je peux m'oublier. Il est parfois plus facile de sauver quelqu'un d'autre que se sauver soi-même.
Au fil des mois, Bergen-Belsen se transforme en mouroir. Les corps s'entassent par monceaux et les enfants s'amusent à les compter, chacun son tas. Hélène, ma mère, dort à côté des morts. Elle vit à côté des morts. Elle marche à côté des morts. Avec les poux qui prolifèrent. Pas les poux de tête, hein. Les poux de corps. Les poux qui dévorent les corps, qui transmettent le typhus. Et puis le froid. Terrible. L'hiver 44-45, pendant des semaines et des mois, les températures tournent autour de moins 20 degrés. Et rien à boire de chaud, ni à manger. Aucun vêtement, jamais de chauffage. Heureusement, ma mère est affectée à l'infirmerie, où il y a un peu de chauffage. C'est sans doute ça qui lui a sauvé la vie. Et à moi aussi. Ma mère m'a raconté que sur une couchette proche de la sienne, un jour elle fait la connaissance d'une toute jeune fille.
Bonjour. Tu t'appelles comment? Anne. Anne Frank. Et tu as quel âge? J'ai 15 ans.
Anne est atteinte du typhus et pourtant elle chante. Elle chante dans sa langue, le néerlandais.
Un jour, tu vois, Hélène, moi, eh ben, j'irai visiter Paris.
Hélène lui sourit, elle l'encourage à rêver. Mais c'est écrit sur les traits de son visage. La mort approche. Maman, comme j'aurais aimé que tu me racontes ma naissance. Mais tu ne l'as jamais fait, tu n'as jamais voulu, tu ne pouvais pas sûrement. Alors moi, eh ben, je l'imagine en me nourrissant de tous les témoignages de rescapés de Bergen-Belsen, qui, parfois, dans leurs écrits, de ci, de là, évoquent ma naissance. Alors voilà comment je la vois. C'est le soir, il fait nuit, surviennent les premières contractions. Tu vas à l'infirmerie en te cachant, tu poses des couvertures sur le sol et par-dessus, tu mets ce drap que tu as lavé à l'eau froide avec un petit bout de savon. Tu allumes une bougie et tu la caches sous une casserole un peu relevée pour ne pas être repéré. Maintenant, tu es sage-femme. Tu sais qu'il va falloir fournir des efforts colossaux. Mais tu ne pèses que 30 kilos, tes muscles ont fondu. Alors le travail est long, difficile, douloureux, mais... tu trouves la force de pousser. Et moi je finis par sortir sans un cri, sans un pleur, comme si j'avais déjà compris qu'il fallait se cacher. Je suis tellement petite. Je dois peser moins d'un kilo et demi. Mais tu me trouves jolie. Et tu coupes toi-même le cordon ombilical. Et tu me serres sur ta poitrine. Et miracle, tu découvres que tu as un peu de lait. Alors je t'aide. Ensuite, tu m'enveloppes dans ces morceaux de tissu que tu as échangés depuis des mois contre des rations de pain. Et pendant 6 mois, je vais vivre caché sous ta blouse, en sécurité contre toi, sans bouger et sans jamais pleurer, ni même geindre. Tu m'appelles Yvonne, à cause du prénom de Madame de Gaulle. C'était aussi ton pseudonyme dans la Résistance. Et maintenant, tu n'as plus qu'une seule pensée, maman. Me nourrir. Ça occupe toutes tes journées, et tout ce que tu trouves, je l'accepte. De la soupe au rutabaga, des morceaux de betterave crue, tu les mâches avant de les déposer dans ma bouche. Et parfois, un peu de lait en poudre que tu as échangé et que tu délayes dans de l'eau froide. Longtemps après, au début des années 2000, on m'a offert un livre d'une certaine Francine Christophe, qui racontait son internement avec sa maman à Bergen-Belsen. Et page 124, je suis tombé sur ces mots. Maman, malgré l'interdiction formelle de sortir la nuit, est allée un soir à l'hôpital voir Madame S, qui venait de mettre au monde une jolie petite fille. Et elle lui a porté un morceau de chocolat qu'elle gardait en réserve, pour les jours encore plus durs. Madame S, est-ce comme Salomon, une petite fille qui naît dans le camp, je me dis, ça ne peut être que moi. Quelqu'un connaît donc mon histoire. Quelqu'un m'a vu naître, ou presque, quelqu'un m'a côtoyé là-bas. Je veux la retrouver. Je veux lui parler. Je veux l'écouter surtout. Alors j'écris à son éditeur et un jour, elle m'appelle. Francine avait 11 ans à l'époque.
Oh, tu sais, elle n'était pas bien grosse, ta maman. On voyait pas qu'elle était enceinte. Et si elle nous l'avait pas dit, on l'aurait pas su, tu sais. Et toi, ben, c'était toute maigrelette, et surtout, c'était incroyable, tu mouffetais pas. Pas un pleur. Pendant tous ces mois, pas un pleur, c'était fascinant.
Et le chocolat, alors ?
Eh bien, le chocolat, ma mère m'a dit, Hélène peut mourir cette nuit, ce chocolat peut l'aider, peut-être la sauver, lui donner de l'énergie, mais bon, elle m'a dit, ce chocolat, il est à toi, et on peut le garder. Mais j'ai pas hésité, hein. J'ai pas hésité une seule seconde. Je lui ai dit, évidemment, on lui offre notre chocolat.
Et quelques temps plus tard, Francine Christophe organise une conférence à Paris. J'y vais. Et elle est là, devant moi, sur l'estrade qui témoigne. Je l'écoute. Et puis à la fin, le micro passe de main en main, et là, je me lève toute tremblante.
Bonjour. Je m'appelle Yvonne Salomon. Alors j'aurais beaucoup de choses à vous dire, mais aujourd'hui, je suis venu, Madame Christophe, pour vous donner quelque chose, ou plutôt pour vous rendre quelque chose.
Et là, je m'avance vers elle, et je lui tends un chocolat.
Voilà, madame, je suis le bébé. Le bébé, c'est moi.
Et là, elle se lève, elle descend de l'estrade, on s'enlace. Je n'en reviens pas, maman, que tu m'aies jamais raconté cette magnifique histoire. Le 9 avril 1945, sentant venir la défaite, les SS évacuent les déportés juifs du camp pour s'en servir d'otage ou disons de bouclier. Alors ils nous empilent dans des camions et moi, je suis toujours ligoté contre la poitrine de maman. Et je ne pleure toujours pas. On arrive à la gare, on nous fait monter dans un wagon à bestiaux. On ne sait pas où on va. Mais est-ce qu'il y a pire que Bergen-Belsen ? Eh bien oui, ce voyage en train est pire. tout le monde a la dysenterie. Il n'y a pas de toilette. Alors les gens se vident sur le plancher. De temps en temps, le train s'arrête, maman descend ramasser de l'herbe sur les talus. Elle la mâche et elle me la met dans la bouche. Et elle me donne aussi un peu de lait en poudre qu'elle a économisé et qu'elle allonge avec l'eau des fossés. Et le train tourne en rond comme ça pendant 14 jours. Car, et ça je l'apprendrai plus tard, les Allemands sont cernés par les Britanniques d'un côté et par les Russes de l'autre. Et puis le 15e jour, le train s'arrête. Tiens, on n'entend plus le hurlement des SS. Ils nous ont abandonnés. Et là, on voit arriver des Russes. Des Russes avec de drôles de pantalons bouffants. Ma mère n'a qu'une idée. Se laver, se débarrasser de ses vêtements pleins de poux. Alors elle s'approche d'une maison allemande. Et là, une dame la laisse entrer chez elle, de mauvaise grâce. Il y a de la nourriture partout. Mais attention, hein, maman le sait par ses études, il ne faut pas se jeter dessus, ne pas remplir d'un coup nos ventres si creux. On pourrait en mourir. La dame nous attribue une chambre. Et là, dans cette chambre, se produit un miracle. Ma mère m'enlève mes langes, elle me sépare d'elle, et pour la première fois, je crie comme un bébé qui sort du ventre de sa mère. Mais 6 mois plus tard, Nathan aussi, le mari d'Hélène, a survécu à la guerre. Et les retrouvailles ont lieu à Marseille en janvier 1945. Et quand il arrive, il me voit dans les bras de maman. Et lui, il rentre d'un camp de prisonniers où il était détenu depuis 1940. Alors est-ce qu'il croit l'histoire que ma mère lui sert d'un bébé hollandais qu'elle aurait adopté? Je sais pas, je crois pas. En tout cas, il décide de me reconnaître. Il n'a jamais voulu que je sache qu'il n'était pas mon père biologique. Et j'ai beaucoup hésité à vous le révéler pour ne pas salir sa mémoire. Mais je le dis, parce que c'est noble au fond ce qu'il a fait. Je n'étais pas sa fille, mais il m'a reconnu et il m'a aimé. Il a été un père magnifique et il nous a tous élevés de la même manière. À partir de là, la vérité qu'on me sert en grandissant, c'est celle de mes papiers d'identité, sur lesquels il est écrit que je suis né le 15 août 1945 à Marseille. Mais vers l'âge de 16 ans, forcément je me pose des questions. Le camp de Bergen-Belsen, où était ma mère, a été libéré au mois d'avril 1945. Il y a quelque chose qui cloche. Quand est-ce que j'ai été conçu? J'interroge maman. Écoute Yvonne, voilà ce qui s'est passé. Papa s'est échappé du camp de prisonniers où il était détenu et il s'est introduit à Bergen-Belsen et c'est là qu'on t'a conçu. C'est tout. C'est une fable. Mais j'y crois, je veux y croire. Jusqu'à ce que je vois le film Nuit et brouillard d'Alain René. Et que je comprenne que ça ne tient pas. On ne s'introduisait pas dans un camp de concentration la nuit comme ça. Alors est-ce que maman a été violée par un nazi? Elle me jure que non. Mais le trouble s'installe et il dure jusqu'à mes 28 ans. Et puis un jour, maman, on te remet la Légion d'honneur. Et Louis est là, ton compagnon de résistance. Et ça me saute aux yeux. Il me ressemble, le visage surtout. Alors après la cérémonie, maman, ne me mens plus, je te supplie. Est-ce que Louis
mon père biologique. Oui. Oui, ma fille.
Désormais, sur ma carte d'identité, il est écrit « Yvonne Salamon, née le 20 octobre 1944 à Bergen-Belsen ». Maman est morte le 5 décembre 1987 à l'âge de 82 ans. J'ai beaucoup pleuré, beaucoup, et longtemps, moi qui pourtant ne pleure jamais. 5 jours plus tard, on l'a mise en terre au petit cimetière des Olives. Et pendant 20 ans, je n'y ai jamais remis les pieds. Parce qu'en réalité, elle était là. Je lui parlais tous les jours, elle me conseillait, elle me guidait. Et puis en 2008, j'ai pris mon courage à deux mains et je me suis forcé à aller sur sa tombe. Eh bien, ça ne m'a rien fait. Je n'ai rien ressenti. Comme si tu étais resté en moi, au fond. Comme si je t'avais assimilé. Un amour fusionnel que la mort n'a pas pu dissoudre. Je ne suis jamais retourné au cimetière. Et la prochaine fois, ce sera pour mes propres obsèques. Quand je te rejoindrai dans le caveau familial pour reposer à jamais près de toi. Voilà donc l'histoire, Yvonne Salamon, que j'ai tirée de votre livre « Je suis né à Bergen-Belsen » qui paraît chez Plon. Vous n'avez pas pleuré, et vous l'avez écrit, vous ne pleurez pas jamais. Hein.
C'est vrai, je ne pleure pas, non.
Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas ému, ou ça veut dire que vous n'êtes pas ému?
Non, ça ne veut pas dire que je ne suis pas ému. Je suis ému, bien entendu, mais bon, pleurer, non. J'ai pleuré une fois. Quand j'ai appris la mort de ma mère.
C'était la dernière fois.
C'était la dernière fois.
Cette relation fusionnelle que vous décrivez, elle existe dans votre souvenir depuis le début de votre histoire, ou bien elle est devenue vraiment fusionnelle quand vous avez su ce qui s'était passé, vraiment?
Je pense qu'elle l'a été depuis le début. Depuis le début. Je raconte dans mon livre le souci qu'elle a eu toute sa vie de me suralimenter tous les soirs. Quand elle montait se coucher, elle m'apportait un fruit. Elle a toujours été tellement préoccupée par moi et vraiment cédant à toutes mes volontés quand même. Je pense que j'ai été très gâtée.
Donc dès votre enfance, ouais, où vous ne savez rien, vous sentez qu'il y a quelque chose entre vous deux qui dépasse la relation mère-fille habituelle?
Oui. Et puis, il y a quand même quelque chose de particulier. Donc, ce souci pour me suralimenter, qu'elle n'avait pas avec ses autres enfants. Et puis, il y avait une différence de morphologie entre mes deux frères, ma sœur et moi. Donc, j'étais toujours plus fluette. Donc, je pense qu'elle avait un souci particulier depuis le début, pour moi.
Qu'on comprenne bien, dans votre enfance, donc avant ce moment à 16 ans où vous vous dites, parce que vous commencez à comprendre qu'un bébé c'est 9 mois, etc., et que ça colle pas tout ça. Qu'est-ce que vous savez de l'histoire de votre mère avant, au tout début de votre adolescence?
Bien, je connaissais, parce qu'il y a eu beaucoup d'articles faits sur elle en sa qualité d'ancienne résistante. Elle faisait partie d'une association d'anciens déportés. Il y avait des manifestations. Donc, je connaissais toute l'histoire, si ce n'est que je ne connaissais pas l'existence de ma naissance dans le camp.
Elle vous raconte toute l'histoire, mais à aucun moment, elle ne dit « Toi aussi, tu es né à Bergen-Belsen ».
À aucun moment. Je pense que ça a été un accord entre mes parents et mon père. Pour lui, c'était fondamental que je pense être né de lui.
C'est une question d'époque, ça aussi. Peut-être.
Peut-être. D'ailleurs, dès que j'avais quelque chose, il me disait « Ah, c'est moi qui ai dû te le transmettre ». Voilà, il a été un père merveilleux.
Alors, je suppose évidemment qu'en tant que, puisque c'est votre histoire, vous avez une explication, et puis vous êtes devenu psychiatre après. Est-ce que vous êtes d'ailleurs psychiatre et un peu psychanalyste?
Oui, voilà. Bien sûr.
Votre génération, c'est un peu, c'est oui, en général le cas. Qu'est-ce que vous pouvez dire là-dessus?
Ce qui me reste, en tout cas, encore aujourd'hui, c'est l'horreur dès que j'entends parler l'allemand. une horreur terrible. Je ne le supporte pas. J'imagine...
Donc vous êtes germanophobe, hein ?
Complètement.
Complètement.
Voilà. J'imagine que toute petite, collée sur sa peau, et qu'est-ce qu'on entendait ? Que des hurlements, je veux dire, des aboiements de chiens, des ordres en allemand. Ça doit être terrible. Je veux dire, j'ai dû sûrement ressentir tout ça et m'en protéger. Mmh. Je l'analyse comme ça.
Et vous sentez, vous pensez que c'est indispensable pour votre survie ?
Bien sûr.
Et bien vous ne pensez pas que votre mère, à un moment, vous dit « Chut, tais-toi !»
C'est possible, mais il m'en est resté, là encore, quelque chose. Je ne supporte pas les pleurs des bébés. Pour moi, un bébé, ça ne doit pas pleurer.
Est-ce que ça a à voir avec le fait que vous n'avez pas eu d'enfant, vous-même ?
Oui, oui, oui. Bien sûr. Non, mais ça a été mes problèmes de santé aussi. Hein. Mmh. Parce qu'on ne sort pas indemne d'une telle épreuve.
Il y a des séquelles de ça, physique.
Bien sûr, bien sûr.
Dans votre développement ?
Oui, oui, oui.
C'est-à-dire que vous ne pouvez pas, vous n'avez pas pu avoir d'enfant ?
Non.
Mais de toute façon, en auriez-vous voulu ?
Non, non plus. Mmh. Enfin, à une certaine période, je n'aurais voulu, mais c'est passé maintenant.
Votre trauma, comme on dit, est-ce qu'il a aussi à voir avec le fait que vous soyez devenu psychiatre ?
Bien entendu, bien entendu. Bon, il y a eu quand même un événement facilitateur. C'est-à-dire que pour ma mère, il fallait être médecin.
Oui, comme
de
papa.
De toute façon. Mmh. Et comme,
comme elle aurait dû être.
Et comme ses enfants l'étaient.
Tous les autres.
Il fallait être médecin, et après, me disait-elle, on réfléchit à ce qu'on veut faire dans la vie. Donc, dans le fait que je sois médecin, que je commence, j'ai commencé mes études de médecine, ce qui est très rare, à 32 ans.
Ouais.
Avant, j'étais orthophoniste, puis j'avais fait des études de lettres. Et elle m'a dit, enfin, tu fais des études, enfin. Donc, ils m'ont aidé, mes parents. Bref, pourquoi psychiatre ? Mais d'abord, j'ai été orthophoniste. Quand on m'amenait un enfant qui avait une dyslexie, dysorthographie, je recevais les parents. Je parlais avec les parents. Donc, je veux dire, la psychiatrie n'était pas très loin déjà. Et puis, quand j'ai fait médecine, il n'y a eu que deux métiers qui m'auraient plu. La chirurgie et la psychiatrie. La chirurgie, j'avais des problèmes de santé. Je ne pouvais pas me retrouver à 6 heures du matin dans un bloc. Donc, ça a été la psychiatrie, mais c'est un métier que j'adore.
Et que vous avez exercé jusqu'à il y a très très peu de temps.
Oui, et que peut-être je vais encore exercer, peut-être auprès de Médecins du Monde, enfin, je vais voir. Mmh. Après mon livre, peut-être.
Il y a là-dedans l'envie de réparer les traumas des autres, ou d'aider les autres à réparer leurs traumas.
Oui, d'aider les autres, c'est sûr.
Mais vous, il y a quelqu'un qui s'est occupé de réparer vos traumas ?
Oui, oui, j'ai consulté. Mmh. J'ai fait une analyse personnelle, bien sûr.
Ah, avant de devenir vous-même,
voilà,
vous-même analyste.
Je voulais juste dire un mot sur le deuil, l'impossibilité du deuil que je décris d'ailleurs.
De pleurer votre mère en vérité devant sur sa tombe, là, comme le fait tout le monde, quoi.
Non. Et c'est pour ça que je ne suis pas allé, je me suis forcé une seule fois à y aller. Parce que je trouve que c'est une mauvaise expression.
Faire son deuil.
Faire son deuil, je trouve que c'est pas faisable.
Je suis d'accord avec vous.
Ce n'est pas faisable de faire son deuil. C'est impossible. On ne le fait pas, son deuil. Voilà, je voulais juste faire ce petit aparté.
Avec Hélène et avec qui que ce soit.
Exactement.
Mais plus encore avec Hélène.
Plus encore.
Vous le racontez très très bien dans le livre. Le grand mystère de votre vie, c'est que votre mère n'a jamais vraiment voulu vous raconter votre naissance. On comprend que vous lui avez posé la question, n'est-ce pas ?
Bien sûr.
Plusieurs fois ?
Plusieurs fois.
Et c'était un refus catégorique ?
Oui, oui. Enfin, elle m'a raconté une histoire invraisemblable.
C'est-à-dire ?
Mon père serait rentré avec un uniforme de la Croix-Rouge internationale dans le camp de Bergen-Belsen et
la
il
nuit.
M'aurait conçu.
Là, il serait reparti après,
voilà, après
dans son camp de prisonnier. Elle n'a jamais voulu aller au-delà ?
Non,
mais jamais. Elle n'a pas su que Francine Christophe vous avait donné des informations.
Non, à la fin de sa vie,
ouais.
Quand je lui ai dit, je sais, c'est pas papa, mon géniteur, je sais qui c'est.
C'est Louis ?
C'est Louis. Elle en a convenu et elle a organisé un rendez-vous avec Louis
moi.
Et moi.
Mais la naissance, ce moment-là, c'est-à-dire que la couverture, le drap qu'elle a lavé, tout ça, ça reste des suppositions.
Oui, bien sûr. Elle ne m'en a pas parlé.
Parce que c'était trop douloureux.
Je pense, moi.
Pour elle.
Je pense. Comme tous les anciens déportés, elle n'a pas parlé pendant des dizaines d'années. Elle n'a fini par écrire tout ce qu'elle a écrit que je mets dans mon livre, que peut-être 10 ans avant sa mort. Je crois que c'était indicible, vraiment.
Ça, c'est quelque chose qu'on constate dans beaucoup de récits de déportés que j'ai racontés, y compris ici. C'est cette capacité qu'ont eu les survivants à tracer leur vie sans se retourner. Et dans notre génération, pour notre génération, qui vient pour un oui, pour un rien, et qui se prétend traumatisé par pas grand-chose, on a du mal à comprendre. Et vous avez compris ?
Comment dire ? Je pense que s'ils n'ont pas pu parler, je pense que c'était des êtres humains comme eux qui exerçaient cette barbarie sur eux. Mmh. Et ça, je pense que ça doit être terrible. C'est-à-dire que ce n'est pas croyable même qu'il y ait tant de barbarie chez un être humain.
Et que c'est insurmontable, et que donc, comme on ne peut pas le surmonter, on n'en parle pas.
Je pense. Mmh.
Et après, on trace sa vie, parce que ce que j'entends, mais c'est sous-tendu, mais c'est que votre mère a été une hyperactive, ensuite, qu'elle a tracé sa vie, et que si on n'avait pas su, on n'aurait rien vu.
C'est sûr, oui. Elle a quand même, elle a tracé sa vie, oui. Ils ont eu un autre enfant.
Juste après ?
Voilà, en 47, mon frère Roger, qui est devenu un grand savant, lui aussi. Peu de temps après, elle s'est arrêtée de travailler quand même. Il faut dire qu'elle a souffert le martyr, tellement elle avait reçu de coups. Pendant des années, elle ne pouvait plus s'allonger. Et à l'époque, il n'y avait pas d'imagerie médicale. Mon père était médecin, il l'amenait chez des spécialistes. Et tout le monde lui disait, oh, vous savez ce qu'elle a souffert, c'est un peu dérangé. Jusqu'au jour où, à Paris, on a fait le diagnostic, elle avait un urinome de la moelle épinaire, on l'a enlevé, ça a été fini. Mmh. Elle a souffert des années, elle n'a plus pu travailler.
Donc, et alors, votre père, donc Nathan, il a su que vous saviez ?
Non.
Non.
Il ne l'a pas su. Non, non.
Ça s'est fait après sa mort.
Voilà. Après sa mort.
Il ne l'aurait pas supporté et c'est pas grave qu'il ne l'ait pas su.
Il ne voulait pas le savoir. Et d'ailleurs, il a bien fait. Mon père, c'est lui. Mmh. Le père, c'est celui qui aime, disait Pagnol. Il avait bien raison.
Et Louis, vous avez gardé quel genre de relation avec lui ?
Très peu, très peu.
Très peu.
Je suis allé le voir une fois, on s'est vu peut-être 2-3 fois, mais il faut dire que c'était un ami de mes parents, que je l'ai vu toute
votre enfance, il était là.
Voilà.
Merci beaucoup, Yvonne Salamon, d'avoir livré tout ça. À travers ce récit que j'ai tiré donc de votre livre, Je suis né à Bergen-Belsen, qui est un formidable livre dont je n'ai évidemment pas tout raconté, comme toujours. En 30 minutes, c'est pas possible. Et donc, vous pourrez vous nourrir d'autres épisodes de cette histoire en lisant ce livre qui est publié par Plon.
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur Europe 1.fr.